Qu'est-ce que la communication subliminale? On l'appelle également aujourd'hui communication infraliminaire.
Il est possible que l'homme disparaisse s'il continue à faire des sottises, mais il faut déjà dès maintenant se préoccuper d'un relais possible.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour votre nouveau rendez-vous scientifique sur Radio Grenouille, les savants de Marseille. Cette émission complète la production scientifique de vos ondes en s'inscrivant dans la lignée de vos étincelles mensuelles. Les savants de Marseille sont proposés par un collectif de jeunes chercheurs, ce qui en a inspiré le nom, qui était également le nom choisi par une émission radiophonique du journaliste scientifique Pedro Lima dans les années 90. Notre objectif est de vous présenter de manière accessible à tous certaines actualités scientifiques en mettant en évidence les implications pratiques de celles-ci. Chaque mois, nous nous retrouverons pour développer un thème autour d'un débat rassemblant, autant que faire se peut, des acteurs du monde scientifique et de la société civile. L'émission sera de plus émaillée de nombreuses rubriques dont nous vous laissons découvrir la teneur au long de ce premier numéro.
Selon vous, il reste combien d'années avant que les réserves de pétrole soient épuisées?
70 ans peut-être, à peu près.
40 ans.
A priori une trentaine d'années.
Je ne sais pas.
On va dire moins de 10 ans, je pense. Moins de 10 ans parce qu'ils viennent de remonter le cours du pétrole, donc ça veut dire qu'ils veulent limiter, ils veulent faire payer le plus cher possible pour récupérer le maximum d'argent.
Et concernant le gaz?
Et le gaz, je pense que c'est peut-être moins. C'est peut-être 25 ou 30 ans.
Je dirais à peu près autant, mais bon, je peux pas dire, je ne suis pas spécialiste du pétrole.
Quels sont les types d'énergie qui ne sont pas productrices en CO2?
Il y a eu ce projet là au Brésil pour vous savez, ils font, je sais plus là, les autos là avec de l'huile de... Comment ça va être?
Éolien, marée motrice, la houle, solaire bien entendu.
Et le... par le sol, c'est géothermique.
Le colza, je pense. Non, pas le colza, la betterave, c'est ça? La betterave, oui, je pense. Du Brésil.
Le vent, les éoliennes et tout ça, non?
Pas directement. Je pense qu'il faut en inventer. Ça doit exister. Mais il faudrait se pencher vraiment là-dessus au niveau de la recherche.
L'énergie solaire, l'énergie éolienne. Marée motrice, hydraulique.
En tous les cas, il y a l'énergie solaire, c'est déjà pas mal. Bon, maintenant, il faudrait la mettre en place d'une manière plus efficace et plus répandue.
Donc, pour ce premier rendez-vous, nous avons choisi de traiter des problématiques énergétiques et de leurs retentissements régionaux au travers du projet ITER. Donc, aujourd'hui, nous avons deux invités. Nos deux invités sont Victor Blanc. Donc, Victor, vous êtes un jeune chercheur doctorant en mécanique des matériaux au laboratoire de mécanique acoustique, c'est ça?
Oui, bonjour.
Donc, bonjour, bienvenue. Et notre deuxième invité, M. Clément Cancès, doctorant en mathématiques appliquées et plus précisément spécialiste des écoulements pétroliers en sous-sol. Donc, vous nous en direz plus. Bonjour, Clément.
Bonjour.
Donc, on va revenir un peu sur les questions qui ont été posées au travers de notre micro-trottoir. On voit que les connaissances sont assez variées, notamment pour ce qui est de l'épuisement des ressources. Donc, à quand peut-on dater l'épuisement des ressources, et notamment du pétrole?
Bon, alors, ça, c'est une très bonne question et assez compliquée, beaucoup de tiroirs, dans le sens où il y a souvent des estimations qui sortent comme quoi il ne resterait plus que 40 ans de pétrole. Alors, il ne reste que 40 ans de pétrole si on continue à consommer au même rythme ce pétrole, voire en augmentant la consommation comme c'est le cas actuellement. Ce qui est une chose qui, a priori, ne va pas pouvoir durer, parce que moins il y aura de pétrole, plus les prix vont flamber, et donc plus on va se tourner vers d'autres énergies. On pense actuellement, il y a un retour du charbon, un retour en grâce du charbon.
D'accord.
Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a des recherches qui sont faites pour trouver des nouveaux gisements. On en a découvert actuellement des nouveaux grands gisements au Yémen, par exemple.
Donc ce qui allongerait en fait la durée avant l'épuisement des ressources.
Tout à fait. Et aussi un dernier point, c'est qu'il y a des gisements qui réouvrent, qui étaient plus rentables à l'exploitation, qui maintenant, avec la hausse du prix du baril, réouvrent. Et il y a des nouveaux gisements qui n'étaient pas rentables à forer. Je pense particulièrement aux gisements offshore, où on va aller chercher du pétrole à 2000 mètres de profondeur. C'est hors de prix. Mais avec un baril de pétrole à plus de $60, ben, ces gisements-là deviennent rentables. Et donc, on peut commencer à songer à exploiter ces richesses sous-marines. Et donc, au-delà de ça, encore un nouveau point que je veux rajouter, c'est il y a des gros progrès dans la qualité de l'extraction. C'est-à-dire que jusque dans les années 80, on exploitait, je dirais, environ 30% des nappes pétrolières. Maintenant, on arrive à monter à des pourcentages bien supérieurs, 50%.
D'accord.
Donc ça augmente. Il y a des nappes qui ont été exploitées, qui sont quasiment vides, mais grâce à des technologies nouvelles, on arrive encore à réexploiter du pétrole.
Donc en quelque sorte, cette estimation de 40 ans est assez pessimiste.
Elle est assez pessimiste.
Pessimiste, enfin, tout dépend comment on voit les choses.
Ouais, bien
sûr. Elle est, c'est la durée la plus courte envisageable.
Moi, je pense que ce sera plus en pratique. Ne serait-ce qu'à cause de la flambée des cours qui vont nous amener à développer, par exemple, des biocarburants ou des choses comme ça, qui vont rendre justement les combustibles à l'éthanol, comme c'était évoqué dans le micro-trottoir.
Justement, enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur ces énergies alternatives? Pourquoi ne sont-elles pas plus exploitées? Quelles sont-elles?
Alors, pour mettre dans sa voiture, c'est pas vraiment pratique. Vous imaginez bien de mettre une grosse batterie. On a vu que pour l'électrique, on avait beaucoup de problèmes à transporter l'énergie. Mmh. Et en fait, c'est vrai qu'on est pour des automobiles, on aime bien avoir un carburant liquide. Donc, les nouvelles technologies qui apparaissent actuellement dans ce domaine-là, ce sont les biocarburants, ce qu'on appelle. Donc, par exemple, de l'éthanol, ça commence à se répandre fortement au Brésil. En France, le gouvernement a lancé une politique en faveur des biocarburants aussi, où on devrait en trouver à la pompe, enfin, du moins, c'est ce qui est annoncé dans les prochaines années. Alors, ces biocarburants-là, à l'heure actuelle, ils sont obtenus par distillation.
C'est-à-dire,
tu prends du colza, tu le fais fermenter un petit peu, tu le chauffes, et l'alcool qui est dans le colza, qui est dans ta fermentation, va se condenser. C'est de la même manière qu'on ferait une eau de vie, je dirais, pour donner un exemple. Et alors, ces produits-là, donc l'éthanol qu'on obtient ainsi, ben on se rend bien compte que ça consomme énormément d'énergie de le distiller. Parce qu'il faut le chauffer, il faut l'évaporer, pour le recondenser après. C'est donc, quelque part, moralement, pour produire, je n'ai pas une notion exacte des chiffres, mais pour produire un litre d'éthanol, on va devoir en consommer un demi-litre. Donc, c'est pas super intéressant.
D'accord.
Mais il y a des nouvelles recherches aussi qui sont lancées pour produire des choses plus proches du pétrole, justement par fermentation de la biomasse sous forte pression.
De la biomasse. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus clairement?
Non, ça, c'est des procédés qui sont assez récents, en fait. L'idée, ce serait de faire du compost, mais du super compost qui brûle dans ton réservoir. Je peux pas vous en dire vraiment plus parce que je suis pas hyper calé sur le sujet, mais je sais qu'il y a beaucoup de démarches, justement, dans ces biocarburants qui sont lancées au niveau de la recherche, pour produire du carburant, justement, à moindre coût énergétique. C'est-à-dire que pour avoir un litre de carburant, essayez de ne pas en cramer un demi-litre.
Mmh.
Donc,
voilà. C'est une question de rentabilité, en fait, tout simplement. Bah, si,
de rentabilité, et puis au-delà de ça, il n'y a pas que la rentabilité qui compte. Je veux dire, pour produire un litre de carburant, vous avez besoin d'en cramer en plus un demi-litre, ça veut dire qu'au niveau des terres, pour pouvoir produire, ça va consommer énormément de surface cultivable. Mmh. Donc après, c'est le coût de l'alimentation qui va se ressentir. Enfin, je veux dire, il y a un vrai problème de capacité de production limitée en France. Et il n'y a pas que le coût qui intervient.
D'accord. Là, vous nous parlez plus spécifiquement du carburant et notamment des automobiles, mais de manière plus large, l'énergie en général, quelles sont les alternatives? On entendait notamment dans le micro-trottoir, on entendait des gens nous parler de l'énergie éolienne, de ces genres de choses.
Alors ça, pour l'énergie éolienne, avec une éolienne industrielle produit, on va dire, 3 mégawatts. C'est la puissance d'une éolienne.
Ce qui correspond de manière assez basique par rapport à notre consommation au sein des ménages.
Je ne me rends pas vraiment compte en fonction de la consommation d'un ménage. Je ne sais pas. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour remplacer une centrale nucléaire à 4 réacteurs, il faut 800 grosses éoliennes.
D'accord.
Ça vous fait un champ à perte de vue, sachant que les éoliennes, on ne peut pas les mettre collées parce que ça se perturbe. Deux éoliennes se gênent. Si on les met à côté.
D'accord.
Donc ça veut dire, vous imaginez la rangée d'éoliennes qu'il faut.
Vous m'avez dit 800.
800, pour une centrale nucléaire.
D'accord. Donc effectivement, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à remplacer encore le nucléaire. Et...
Surtout, à l'heure actuelle, on est plutôt dans une phase où on se rend compte que l'éolien, c'est sûr que c'est une énergie qu'il ne faut pas négliger, il faut la développer. Mais on ne peut pas se permettre de faire que de l'éolien, c'est-à-dire que c'est aussi une pollution visuelle énorme. C'est un champ d'éoliennes, c'est moche. Faut pas... Et puis, c'est aussi une pollution sonore assez puissante. Dans le sens, une éolienne, ça fait beaucoup de bruit. Et ça, pour les riverains, ont du mal à l'accepter. Donc, c'est quand même assez problématique. Alors, il y a des essais, comme quand on essaye de mettre des éoliennes en mer, des choses comme ça. Mais alors, ce sont des éoliennes, c'est pareil, ça coûte très cher de les mettre en mer. Et puis, on a du mal à mettre beaucoup d'installations avec une forte puissance. Mais bon, ça produit à l'heure actuelle quand même un pourcentage pas complètement négligeable de notre production d'électricité. Donc voilà. Sinon, il y a le solaire.
Oui, effectivement.
Donc, alors, un mètre carré de panneau solaire, ça remplace, ça produit 100 kW. Donc 100 kW, c'est-à-dire qu'il me faut 30 mètres carrés pour remplacer une éolienne.
D'accord, donc on imagine ce qu'il faudrait pour remplacer une centrale nucléaire.
C'est grand. Cela dit, par contre, autant avoir une grosse éolienne chez soi, c'est problématique, autant avoir chacun ait des panneaux solaires. Je pense en particulier à la région PACA où le soleil est souvent là. Ce serait quand même facilement développable de mettre un peu chez tout le monde quelques mètres carrés de panneaux solaires. Et à ce moment-là, les gens seraient presque autonomes énergétiquement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à développer véritablement. Alors, ça ne s'applique pas forcément pour d'autres régions qui sont moins ensoleillées. Ce qui est sûr, c'est que pour la région PACA, on aurait intérêt à faire ça. Alors, ça reste une énergie qui est, à l'heure actuelle, plus chère que l'énergie combustible. Donc, ce que j'appelle énergie combustible, c'est pétrole, charbon, gaz. Les énergies où, en fait, on brûle quelque chose. Mais c'est quand même... une fois qu'on a installé notre panneau solaire, ça demande de l'entretien. Mais ça reste quand même une énergie rentable et puis accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va pouvoir équiper des endroits à circuler avec des panneaux solaires et ça nous évite de tirer des grandes lignes à haute tension pour amener de l'énergie dans des endroits reculés. C'est-à-dire d'avoir une production plus localisée.
D'accord. Donc on voit que vous êtes quand même en faveur, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas vous pensez que le solaire serait l'énergie à développer et potentielle. Vous m'avez dit que les énergies combustibles, donc il y avait un risque d'épuisement, mais il y a également un risque de CO2, un risque de pollution à travers d'émissions de CO2. Victor, vous pouvez.
Oui, aujourd'hui, les productions de CO2, on a une forte présomption sur le fait que ça réchauffe la planète et les énergies non productrices sont au goût du jour, on va dire. Mais le problème, c'est que c'est les quantités d'énergie produites, comme c'est très limité. On arrive donc avec les panneaux solaires à chauffer l'eau, mais pour toutes les installations courantes qui sont les machines à laver, ce que vous utilisez tous les jours, son four, tout ça, je pense pas qu'on s'en sortira avec c'est uniquement ces technologies-là.
Non, et puis faut dire quelque chose, c'est que la consommation des ménages, ça représente, je crois, qu'un quart de la consommation d'énergie en France. C'est-à-dire que le gros de la consommation d'énergie, c'est l'industrie, c'est le monde du travail.
Aussi.
Ouais, 25%, si on peut agir sur ces 25%, c'est quand même vraiment quelque chose d'énorme de gagner.
Donc, oui, effectivement.
Sinon, à propos, justement, tu disais de ces gaz à effet de serre, je tiens à dire aussi quelque chose, c'est que le nucléaire, alors, a de gros défauts qu'il faut traiter, mais n'émet pas de gaz à effet de serre. En particulier,
d'accord, mais
il y a
par
pas
contre,
de CO2.
On a tous les problèmes de déchets nucléaires qui sont à gérer. Et...
C'est autre chose. Oui, ouais. C'est un autre problème. Mais je dirais que ça ne participe beaucoup moins activement au réchauffement de la planète. Enfin, du moins, pas par l'effet de serre.
D'accord. Donc, toutes les problématiques nucléaires, on va y revenir dans la suite de notre débat, au travers notamment des impacts régionaux de tout cela, au travers du projet ITER que nous allons développer.
Avant de poursuivre notre débat, intéressons-nous à la découverte des rayons X et du nucléaire.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe.
Pour cette première émission des Savants de Marseille, une anecdote qui remonte aux origines du nucléaire. Donc, la découverte des rayons X et de la radioactivité. Premier temps, 1895. Le physicien prussien Röntgen multiplie les expériences autour d'un instrument qui intrigue. Il s'agit d'un lointain ancêtre du tube cathodique qui équipe nos télévisions. Le faisceau d'électrons, encore mal connu à l'époque, traverse le vide qui règne dans le tube et peut exciter une substance fluorescente qui recouvre la paroi du tube. Röntgen fait cette expérience dans son laboratoire, dissimulant son tube sous un épais carton noir pour l'isoler de la lumière. À sa grande stupéfaction, à chaque décharge du tube, un écran fluorescent placé par hasard au fond de la pièce s'illumine un instant. Comment est-ce possible, puisqu'il a pris soin de cacher son tube sous un carton ? Röntgen passera plus d'un mois à se demander s'il devient fou ou s'il a véritablement découvert un nouveau rayonnement inconnu capable de traverser la matière. Toujours est-il qu'au bout d'un mois, il présente des photographies qu'il a prises au cours de ses nombreuses expériences. On peut y voir les os de sa main qu'il a placés sur le trajet de ses fameux rayons inconnus qu'il baptisera rayon X. La radiographie est née et quelques années plus tard, beaucoup d'hôpitaux seront déjà équipés de ces systèmes d'imagerie médicale révolutionnaires. Cette découverte lui vaudra le tout premier prix Nobel de physique en 1901. Elle amènera surtout une autre découverte bien plus capitale, celle de la radioactivité. Donc deuxième temps, c'est à Paris que ça se passe cette fois-ci. Début 1896, à l'Académie des sciences, le mathématicien Poincaré et Henri Becquerel sont fascinés devant les résultats de Röntgen. Toute l'Europe scientifique s'extasie devant ces phénomènes nouveaux et la curiosité est à son comble. Il n'en faut pas plus à ce génial expérimentateur de Becquerel pour se lancer à la recherche d'une explication. Il veut savoir si tous les matériaux fluorescents émettent ces rayonnements inconnus. Par un heureux hasard, il ne dispose dans son laboratoire que de sels d'uranium fluorescent. Il les expose au soleil, pensant pouvoir provoquer le phénomène de fluorescence. Afin de vérifier la présence des rayons de Röntgen, il place dessous des plaques photographiques bien enveloppées pour les protéger de la lumière du soleil. Si ces rayons mystérieux qui semblent traverser la matière sont émis, alors les plaques devraient montrer une empreinte sous les échantillons fluorescents qui émettent les fameux rayons X. La première expérience qu'il fait au grand soleil est peu concluante, l'empreinte est faible. Le lendemain, Becquerel veut retenter l'expérience mais parier sur les nuages. Il remet son expérience à plus tard, enfermant tout son dispositif dans un tiroir. Quelques jours plus tard, il est prêt à refaire l'expérience, mais sa rigueur d'expérimentateur le pousse à développer des plaques photographiques. Il examine alors les résultats sur sa photo, qu'il s'attend à trouver vierge de toute empreinte, car sans soleil, pas de fluorescence. Mais ô surprise, celle-ci est puissamment impressionnée sous les bâtonnets d'uranium. Becquerel se rend alors immédiatement compte qu'il est face à un phénomène nouveau. Les premiers effets de la radioactivité venaient d'être découverts. Becquerel découvrira très vite que ces rayons nouveaux, qu'il appellera uraniques, sont dus à la présence d'uranium dans ses échantillons, plutôt qu'à la fluorescence de ceux-ci. Presque par hasard, Becquerel vient de découvrir la radioactivité. Il abandonne cependant ses travaux car l'Europe semble bien plus intéressée par les rayons X de Röntgen si spectaculaires. C'est avec Pierre et Marie Curie que Becquerel reprendra ses études sur l'uranium quelques temps plus tard. Les Curie ont découvert la radioactivité du radium bien plus puissante que celle de l'uranium. Ils obtiendront ensemble le prix Nobel de physique en 1903. Becquerel avait découvert ce phénomène majeur et les Curie en avaient montré l'importance et l'étendue.
Est-ce que vous connaissez un peu le projet ITER ? Est-ce que vous savez de quoi ça parle ? Qu'est-ce que c'est ?
Non, mais ça m'est pas totalement inconnu. En tous les cas, le nom.
Oui, oui, de fusion.
Le projet ITER, c'est le projet pour le nucléaire. Oui, mais sans nucléaire, on n'a pas d'électricité. Sans électricité, on n'a rien. Hein. Il faut être un peu réaliste quand même. Hein.
Est-ce que vous savez quels sont les pays qui sont associés à ce projet ?
Du tout. Non.
Le Japon, certainement l'Allemagne, j'imagine. Après, l'autre, je sais pas.
Japon, Canada, Angleterre, quelque chose comme ça. Les USA, je ne sais pas trop s'ils participent. Je ne sais plus, à un moment, ils voulaient participer. Je ne sais plus, après, ils ne voulaient plus.
Qu'est-ce que c'est pour vous, la fusion nucléaire ?
Vraiment, j'ai aucune idée. Non, aucune.
Une source d'énergie, avant tout.
Non, je ne connais pas la fusion, parce que mon rôle n'est pas dans ce... mon travail n'est pas là-dedans. Hein.
La fission, c'est la séparation des atomes. Et la fusion, ça doit être les atomes, un choc entre les atomes, non ? Entre les... un assemblage. Oui, fusion, c'est un assemblage, bien sûr.
Je sais qu'il faut de l'uranium, qu'il faut du plutonium, qu'on met en fusion des noyaux, des atomes, et puis que, bon, ben voilà, avec ça, on produit de la chaleur, on produit de l'énergie. En tous les cas, je sais que c'est extrêmement dangereux et que c'est de la folie furieuse pour moi de s'être lancé dans ce genre de truc.
Donc on voit effectivement qu'au sujet du projet ITER, il y a beaucoup de méconnaissance ou en tout cas d'insuffisance de la connaissance. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Victor ?
Sur le principe du projet, c'est donc une réunion de plusieurs États pour développer une nouvelle forme d'énergie nucléaire, donc toujours à base de ressources épuisables, évidemment, mais qui pourrait durer beaucoup plus longtemps.
D'accord. Bon, déjà, donc, ITER, est-ce que vous pouvez revenir sur la signification de
Le projet ITER, ça veut dire donc, International Thermonuclear Experimental Reactor.
D'accord.
Et donc, c'est un réacteur à vocation purement expérimentale qui serait donc simplement, qui servirait à étudier la viabilité donc, d'une centrale à fusion nucléaire.
D'accord. Donc, rappelons-le, ITER s'implantera à Cadarache. Et donc, on est uniquement dans une phase expérimentale. C'est bien ça. Donc, il n'y a pas...
Il n'y a pas de production d'énergie, oui.
Il n'y aura pas de production d'énergie en tant que telle.
Non. Il y aura donc un apport d'énergie, d'ailleurs, qui utilisera les lignes à haute tension qui sont déjà installées pour le site de Cadarache. Puisqu'il faut fournir pas mal d'énergie pour entretenir une réaction de fusion nucléaire. La réaction de fusion se produit à des températures extrêmes.
Réaction de fusion, donc je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de connu de tous. Quelle est en fait la particularité d'ITER, c'est cette réaction de fusion
Oui. C'est comme le disait la dame, la fission, donc c'est on casse les noyaux des atomes. Et pour la fusion, c'est l'inverse, on va regrouper deux noyaux.
D'accord.
Les noyaux qu'on utilise sont des noyaux d'hydrogène, c'est des noyaux légers, puisque donc inversement avec la fusion, où là on utilise les matières les plus lourdes possibles, donc qui sont plus faciles à casser. Donc là, qui est le plutonium.
D'accord.
Dans le cas de la fusion, on utilisera des noyaux d'hydrogène. Donc le premier élément de notre tableau de Mendeleïev, si vous vous souvenez.
Vaguement.
Donc, ce sont des isotopes de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on a juste le noyau d'hydrogène plus des neutrons, plus donc deutérium-2 et tritium-3.
D'accord.
J'ai sûrement...
D'accord. Donc, en fait, l'objectif, c'est ça, c'est de tester dans quelle mesure on arrive à produire de l'énergie
à partir de cette réaction. Oui, donc ces deux éléments vont se rencontrer à des températures, donc c'est 100 millions de degrés. Donc ils sont ça peut être obtenu à partir d'une géométrie assez spécifique, donc qui est un tore dans lequel on va faire circuler ces matières. Et l'agitation thermique va être suffisamment importante pour que le choc se produise et qu'il y ait fusion des deux atomes. Et qui vont libérer un neutron et produire une forte quantité de chaleur. C'est un rapport de 1 à 10, l'énergie produite.
D'accord, donc beaucoup plus élevé, notamment que des biocarburants dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, enfin, c'est le rapport à 10, c'est lorsqu'on va apporter 50 mégawatts d'énergie, pour donner un chiffre, pour atteindre ces températures, on va récupérer 500 mégawatts.
D'accord, très bien.
Mais cette énergie n'est pas récupérable immédiatement. Il y a ensuite tout le circuit, donc c'est sécurisé, évidemment. Il y a un premier circuit de refroidissement. De refroidissement qui va récupérer la chaleur produite, puis ce circuit va l'échanger avec un second circuit qui dans lequel circulera de l'eau et qui va, comme les réacteurs d'aujourd'hui, produire l'énergie à l'aide d'une turbine, de l'électricité, pardon, avec une turbine.
D'accord. Donc, on voit que c'est un très gros projet, mais qui est encore à une phase expérimentale. Vous nous avez dit tout à l'heure que le I de ITER signifiait international. Donc, quels sont les pays qui sont associés à ce projet? Puisque là, pareil, on a l'impression que les personnes ne les connaissent pas tous. On sait que c'est un projet international. Cadarache a eu de la chance, entre guillemets, d'avoir son projet sur ces terres. Donc, quels sont les pays associés?
Donc, les pays sont les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Corée et l'Union européenne.
D'accord.
Donc, ça représente presque la moitié de la population mondiale.
D'accord.
C'est quand même quelque chose d'immense, quoi.
C'est un très, très gros projet, effectivement.
Mais quand on sait que le projet va coûter 10 milliards d'euros, et ce sera étalé donc sur 50 ans, avec donc la construction les 10 premières années, le début de l'exploitation pendant 20 ans, et le démantèlement les 20 années suivantes.
D'accord. Donc, concrètement, il y aura 20 années de recherche et d'essais
qui
se feront. Et on en est où, là, puisque vous nous dites 10 ans
pour l'instant,
de fabrication, c'est ça? Les 10 premières années seront consacrées à la création du site?
Oui, le projet devrait commencer début 2007, enfin les premiers travaux.
D'accord. Donc, on est très proche, vraiment, de ce lancement. Et enfin, une des questions, je pense, qui peut faire peur, notamment dans la région, puisque le projet est près d'ici, et la dangerosité, puisqu'on parle de nucléaire, on associe souvent ça aux déchets nucléaires et à ces genres de choses. Donc ce projet est-il dangereux?
D'après mes connaissances, non. J'ai pu rencontrer donc, des gens qui s'occupaient du projet et c'est une réaction qu'il faut entretenir. Donc il y a un apport d'énergie qui est nécessaire à ce qu'on garde on conserve cette température très élevée. Et donc il suffirait de couper l'alimentation électrique, donc le circuit d'alimentation, pour que la température au cœur du réacteur baisse et qu'on arrête complètement la réaction.
D'accord, donc en cas de souci, on peut vraiment casser le processus,
oui.
En fait.
Au niveau radioactivité, la réaction va produire de l'eau, donc de ce côté-là, on n'a pas de souci. Dans le cœur donc, du réacteur, on va activer les matériaux qui confinent la réaction, donc tout ce qui est en contact avec le plasma, donc c'est le nom qu'on donne à la matière quand elle atteint cet état, donc c'est un état donc, qu'on atteint à partir de très grandes températures.
D'accord.
Et donc il y aurait simplement les matières en contact avec le plasma, donc c'est des matériaux qu'on a choisis pour avoir une radioactivité à vie courte, c'est-à-dire que l'effet radioactif pourrait s'annuler au bout d'une dizaine d'années. Donc ce ne serait pas comme le même problème que celui qu'on a avec les centrales d'aujourd'hui.
Les déchets nucléaires actuels. Mmh. Donc au bout de 10 ans, en fait, ces déchets ne seront plus radioactifs. Donc c'est aussi, je pense, l'autre gros intérêt du projet, c'est que ce soit moins polluant que ce qui est fait actuellement en termes de nucléaire. Et donc ce projet est aussi un gros atout pour la région, notamment puisqu'il me semble, vous pouvez peut-être me le confirmer, mais donc il y aura énormément de chercheurs sur le site d'ITER. Ces chercheurs venant un peu de tous les pays que vous avez cités tout à l'heure.
Oui, oui. Il y aura un grand centre avec des logements qui vont être créés dans la région, tout autour du site de Cadarache, avec en plus donc la création d'un lycée international à
Manosque. D'accord, qui est déjà ouvert, il me semble.
Oui, qui a déjà été inauguré.
Ouais.
Au niveau des emplois, on aura aussi un certain nombre d'emplois qui vont être libérés dans la région, direct ou indirectement. Je vais retrouver mes chiffres.
Donc effectivement, on a un gros coup de pouce pour la région, puisque il y a toute une économie qui va se créer autour d'ITER, avec de nouvelles personnes drainées du côté de Manosque. Et effectivement, des lycées et des commerçants, je pense, qui s'implanteront encore en plus.
Oui. Pendant la phase de construction, donc, ce serait 500 emplois directs, donc justement pour conduire le chantier, et 3000 emplois indirects, donc tout autour, dont 1400 en région PACA.
D'accord, donc ce sont des chiffres issus du service de communication d'ITER. Je le dis rapidement, ce service de communication, nous l'avons contacté, mais malheureusement, ils n'ont pas accepté ou ils se sont désistés au dernier moment, donc nous n'avons pas pu les avoir sur notre plateau. Donc, par contre, nous avons un dossier mis à notre disposition pour pouvoir effectivement étayer un peu sur ce projet.
Pendant la phase d'exploitation, ce serait un petit peu mieux.
Puisque vous ça revoyez les chiffres à la hausse.
Oui, en phase d'exploitation, c'est 1000 emplois directs et 3000 indirects, donc 2400 en PACA.
D'accord. Donc effectivement, des chiffres très élevés et très intéressants pour la région. Écoutez, est-ce que peut-être, Monsieur Cancès, vous avez quelque chose à ajouter sur le projet? Vous êtes plus spécialiste de l'énergétique, comme on l'a précisé tout à l'heure.
Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon une remarque. C'est-à-dire oui. que fusion, fission, ça ne parle pas forcément. Mais alors, pour donner une image, la fusion, donc ce qui va être développé sur le centre de Cadarache avec ITER, c'est en fait l'énergie, c'est la réaction chimique qui se passe. C'est la réaction chimique qui se passe au sein du Soleil. Donc c'est au sein des étoiles. C'est-à-dire c'est une énergie, c'est une réaction ultra puissante.
D'accord.
Et qui est malheureusement à l'heure actuelle uniquement maîtrisée pour des armes de destruction. Et avec ITER, on espère enfin en faire quelque chose
de positif.
De positif. Et ça serait vraiment une belle chose, moi je pense.
Voilà. Écoutez, on va rester sur ces paroles. Monsieur Blanc, Monsieur Cancès, je vous remercie
Merci de votre invitation.
D'être venu pour répondre à nos questions. Donc, je rappelle que vous êtes doctorant aux universités d'Aix-Marseille 1, il me semble, pour toutes les deux. C'est ça. Donc, vous travaillez plus ou moins de près ou de loin sur toutes ces problématiques. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci.
Donc, si vous voulez plus de renseignements, que ce soit sur la politique énergétique de l'Europe ou sur ITER, donc, vous pouvez retrouver sur tout ce qui est ITER sur le site www.iter.org, il me semble. Et ensuite, un document très intéressant qui est le livre vert. Victor ?
Oui, il y a aussi un document qu'il faut regarder. C'est sur, à partir du site d'ITER, il faut aller voir le compte-rendu du débat public qui a eu lieu pendant depuis janvier 2006, je crois, jusqu'aux vacances, quoi, jusqu'à juin, juillet. Et donc, il y a eu pas mal de... Il y a même un compte-rendu détaillé avec toutes les questions qui ont pu être posées par des gens qui travaillent sur le sujet.
D'accord.
Et donc c'est assez intéressant.
Donc ce document est en lien à partir du site iter.org,
oui.
Il me semble. Et donc l'autre document que l'on voulait signaler, c'était le livre vert qui se trouve sur le site de la Communauté européenne, où vous avez beaucoup d'informations sur les problématiques et la politique énergétique de l'Europe. Donc, ce livre s'appelle « Livre vert, une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable ». Donc, encore merci à vous deux d'être venus et on espère à une autre fois sur les ondes de Radio Grenouille.
À bientôt.
Au revoir.
Ce mois-ci, au sommaire de vos revues scientifiques. Pour la science vous propose un dossier sur une nouvelle catégorie de cellules immunitaires, les lymphocytes T régulateurs. Ces cellules appartiennent à la famille des globules blancs, qui assurent la défense de notre organisme. En général, les globules blancs reconnaissent les agents infectieux et les différencient des cellules propres de l'organisme. La réaction immunitaire sera alors directement dirigée contre les virus ou les bactéries. Mais il existe des maladies appelées maladies auto-immunes, où ces cellules s'attaquent aussi aux cellules propres du corps. La sclérose en plaques ou le diabète insulino-dépendant sont deux maladies auto-immunes. Récemment, des chercheurs ont identifié les cellules responsables de la reconnaissance du soi et du non-soi. Ce sont les lymphocytes T régulateurs. Pour la science, nous explique comment marchent et comment ils pourraient lutter contre les maladies auto-immunes. Au sommaire de Pour la science ce mois-ci, nous trouvons aussi une nouvelle théorie sur l'extinction des espèces, ainsi que les premières images du champ magnétique émis par une autre étoile que le Soleil. Dans le magazine La Recherche, nous trouvons ce mois-ci un article sur le neutrino, particule qualifiée de fantôme. En effet, son existence a été découverte par le calcul avant d'être prouvé par l'expérience. Le neutrino est étudié pour la cosmologie, qui est une spécialité de la physique dédiée aux origines et à l'évolution de notre univers, et en particulier à la théorie du Big Bang. Il pourrait permettre aux chercheurs de savoir comment la Terre est née. La recherche publie aussi ce mois-ci une étude montrant que les bébés peuvent parler dans leur tête, ainsi qu'un article sur l'éthique liée à l'utilisation des cellules souches. À noter aussi un hors-série de la recherche qui mène l'enquête sur la disparition de l'homme de Néandertal. Science et Vie publie une revue sur le thème des cellules souches. Les cellules souches sont des cellules particulières qui peuvent donner naissance à toutes les cellules et à tous les organes du corps. Leur origine peut être embryonnaire ou adulte. Elles sont étudiées par de nombreux laboratoires en vue d'une utilisation thérapeutique. Mais elles pourraient être aussi l'objet d'une dérive, la manipulation du vivant. Science et Vie fait le point ce mois-ci sur le sujet. Ce magazine nous propose aussi un article intéressant sur le devenir des déchets nucléaires, ainsi qu'une analyse sur le moment où le singe et l'homme seraient devenus deux espèces différentes. Enfin, il nous propose un dossier pour comprendre pourquoi certaines bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Pour les plus jeunes, Science et Vie Junior propose un dossier sur les télescopes Corot qui sera lancé à la fin du mois et dont l'objectif est d'explorer le ciel au-delà de notre système solaire et peut-être de découvrir de nouvelles planètes, voire même une autre Terre.
Bonjour à vous, ceci est l'agenda. Donc on n'a pas toujours le temps d'aller à toutes les conférences, on est mal informé. Là vous n'aurez plus d'excuses, prenez vos papiers, vos stylos, on va vous balancer de l'info, notez-moi ça. Donc, on commence par Marseille. Hein. Faculté des sciences de l'UMINI. Donc, elle accueille le professeur Axel Kahn, éminemment connu, directeur de l'Institut Cochin de génétique moléculaire, expert de haut niveau sur les sciences de la vie auprès de la Commission européenne. Il va nous proposer une conférence intitulée « Sciences, progrès et société ». Ça se passe le lundi 4 décembre 2006 à 18h en FIBIT.
Dans le cadre des Jeudis du CNRS, le CNRS Chemin de Joseph Heguier dans le 9e nous propose une conférence le 30 novembre qui s'intitule « De l'enfant de Tang à l'homme de Toumaï, une brève histoire de la paléontologie en Afrique » présentée par François Marchal, chargé de recherche au CNRS.
Le CCSTI Agora des Sciences, vous savez, c'est sur l'espace Canebière. Ils organisent des expositions, de la diffusion scientifique. En ce moment, tous les mercredis, le thème s'intitule « Les nouveaux défis pour l'immunité ». Donc c'est le mercredi à 18h30. Ce 22 novembre, le thème s'appelle « Immunité, cancer, mythes et réalités ». Le prochain s'appelle « Faut-il toujours avoir peur de la grippe aviaire ?» Les expositions et animations permanentes de l'Agora des Sciences. Donc en ce moment, « Voyage au centre de la lumière », c'est jusqu'au 25 novembre. Une exposition du musée de l'holographie et des ateliers d'holographie les mercredis et samedis à 14h30. Du 3 au 20 décembre, ça sera les ateliers son et lumière qui se dérouleront les mercredis et samedis également à 14h30.
L'Observatoire Marseille-Provence nous propose un ensemble de conférences animées par l'association Andromède. Le vendredi 24 novembre à 20h30, il nous propose les comètes après Deep Impact. Et le vendredi 8 décembre à 20h30, une chimie prébiotique cométaire pendant le bombardement précoce massif de la jeune Terre.
On va se déplacer du côté d'Aix maintenant avec les conférences organisées à l'Institut d'études politiques. Donc le 27 novembre 2006 à 18h, ça s'appellera Décadence et paranoïa médiatique, les conséquences du 11 septembre. Le 28 novembre 2006, toujours à 18h, la grande guerre dans les colonies. Et le 29 novembre 2006 à 18h toujours, l'égalité des chances.
Toujours à Aix, sur le site de la MMSH, du 30 novembre au 2 décembre, un ensemble de conférences sur géographie identitaire, lieu, mémoire et ancrage. Et le mercredi 13 décembre 2006 à 18h, Erevan, la construction d'une capitale nationale à l'époque soviétique.
À l'Université de Provence, nous avons comme d'habitude les mardis de l'université. Ce 12 décembre 2006, c'est à noter, la conférence s'appelle Le charbon, hier, aujourd'hui, demain. C'est à 18h30 à la bibliothèque Méjeanne.
Voilà, c'était la première des Savants de Marseille. Rendez-vous pour la deuxième émission le 19 décembre. Ça sera un rendez-vous dans les étoiles puisque nous parlerons du détecteur à particules cosmiques récemment installé à la Seyne-sur-Mer. Merci.
Le campagnol, il grouille sous vos pieds, dans les champs, dans les prés, sans qu'on le voie.